Dans le studio marseillais de Fréquence Mistral, on accueille deux membres de l'association Air Climat. Sébastien Berger-Lefranc, responsable administratif et financier, bonjour.
Bonjour.
Et Joël Guillot, président de l'association Air Climat, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Donc Sébastien, moi je travaille depuis un an pour l'association Air Climat. Donc mon rôle principal, c'est la gestion et l'administration de l'asso. Et puis je fais aussi un peu de gestion de projet dans le cadre de nos différentes activités.
Et vous, Joël ?
Alors moi, je suis chercheur en climatologie au CEREG. C'est un laboratoire de géosciences de l'environnement. Et je suis président de Air Climat et aussi d'un projet le plus important de Air Climat, qui est le Grec Sud. Et donc, je suis retraité et je fais surtout maintenant du transfert de connaissances vers le public et les décideurs pour essayer de conscientiser un peu les gens sur le changement climatique en cours.
Alors, Air Climat, c'est l'association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Alors, est-ce que vous pouvez présenter, aller plus loin vers les missions de cette association et justement le pilotage du Grec Sud par cette association ?
Oui, bien sûr. Donc Air Climat, c'est une association qui a pour rôle de contribuer à la prise de conscience des enjeux climatiques et d'aider à la mise en œuvre de solutions d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation donc pour rendre nos territoires plus résilients face aux effets du changement climatique. Donc en fait, concrètement, nos objectifs, ça va être d'éclairer les acteurs du territoire en collectant des données scientifiques et en les retravaillant pour faciliter leur compréhension. Ça va être après d'accompagner les territoires dans la mise en place de politiques de transition écologique pour rendre nos territoires plus sobres en carbone. Et ça va être enfin de renforcer les interactions entre le monde de la science et les acteurs du territoire. Donc c'est vraiment faciliter ce dialogue entre les deux et faire aussi en fait remonter un peu les besoins des acteurs du territoire vers le monde scientifique.
Et pourquoi, alors, petit bruit de l'ordinateur de diffusion, pardon, pourquoi ce nom Air Climat, pourquoi avoir allié ces deux termes ?
Alors, c'est quelque chose d'assez ancien. Je pense que c'était avant que je n'arrive et encore plus avant que Sébastien ne vienne, mais je pense que ça a dû être une inspiration comme ça des fondateurs, mais... C'est difficile d'en dire plus actuellement, oui. Je ne sais pas trop bien.
Et vous parlez des données que vous collectez. Du coup, vous les collectez où ? Directement au sein de l'association ou vous collectez des données qui sont récupérées par d'autres institutions ?
Alors, ça peut être un peu les deux. On collecte par exemple... il y a par exemple Météo France qui nous propose des données chaque mois qu'après on remet sur le site. Donc, c'est des indicateurs sur la température, sur les précipitations. On a travaillé aussi avec la Maison de la Météo et du Climat des Alpes du Sud qui ont fait des relevés de température là aussi pour nous. Donc, ça peut être en fait des données externes à l'association qu'après nous on récupère, qu'on retravaille. Vraiment pour faciliter la compréhension de ces données scientifiques.
Et sur quel rapport, sur quelles préconisations vous basez pour éclairer les acteurs du territoire ?
Alors, les rapports qu'on propose, c'est des cahiers thématiques et des cahiers territoriaux où, en fait, si vous voulez, on va, dans le cadre du Grec Sud, en fait, qui est l'un des projets centraux de l'association, qui est un groupe d'experts, en fait, sur le climat, on va proposer à plusieurs chercheurs de faire des petits textes sur un sujet précis ou sur un territoire précis. Et on va compiler, harmoniser et là encore essayer de faciliter un peu la compréhension de données scientifiques. On va mettre tout ça dans un cahier et qu'on va proposer aux collectivités directement derrière.
Et en quoi le Grec Sud pourrait s'apparenter au GIEC ? Alors je rappelle ce que c'est le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une publication d'un rapport par un comité d'experts scientifiques intergouvernemental qui est publié tous les 6-7 ans, souvent en trois volets, en tout cas en 2022, dont le dernier là est sorti en avril et qui concerne des solutions à adopter. Est-ce que la démarche du Grec Sud, donc groupe régional d'experts sur le climat que vous pilotez depuis 2015, est la même que la démarche développée par du GIEC ?
En fait, le GIEC fait une analyse au niveau mondial et évidemment à l'intérieur de ces rapports qui sont assez gros. Hein, le rapport du GIEC, c'est 3000 pages x 3. Vous avez dit qu'il y avait 3 volets. Donc ça fait beaucoup de pages et il y a des résumés qui permettent quand même aux gens qui ne sont pas spécialistes de rentrer quand même dedans. Mais tout ça, ça reste quand même au niveau mondial. Et ce que fait le Grec Sud, eh bien, c'est essayer d'adapter les recommandations, adapter les analyses du GIEC au niveau local, au niveau de la région PACA dans ce cas-ci. Et d'ailleurs, il existe des groupes régionaux dans toute la France, de toutes les régions, à peu près maintenant, c'est relativement récent, mais toute la France a maintenant ces groupes régionaux qui permettent en fait de décoder les informations du GIEC qui sont parfois un peu difficiles à comprendre.
Et le Grec Sud rassemble des scientifiques, donc beaucoup de scientifiques de la région qui travaillent que sur la région.
Oui. Bon, en fait, tout ça est bénévole, c'est volontaire. Quand on décide de faire un cahier sur un thème donné, par exemple la ville ou la montagne ou le littoral, on va chercher les spécialistes dans la région de ce domaine et puis on discute avec eux et on fait un plan du cahier, puis chacun fait sa petite contribution et puis comme Sébastien l'a dit, après il y a une homogénéisation qui est nécessaire et ça c'est le rôle de Sébastien et des collègues à lui comme Antoine Nico et Philippe Rossero qui sont aussi employés par l'association.
Et puis il n'y a pas uniquement que des scientifiques dans le Grec Sud, ça peut être aussi des gestionnaires, des agents d'institutions qui sont après spécialisés dans un domaine spécifique et puis qui peuvent apporter aussi un regard différent que simplement le regard scientifique dans ces cahiers-là.
Et vous relisez toutes ces données, toutes les données que donnent les scientifiques qui participent un peu au Grec Sud et vous les mettez en forme?
En fait c'est ça, on relit, on harmonise, on essaye de trouver un peu une cohérence dans le sujet qu'on traite, qui est vraiment un fil rouge, et que finalement ce soit accessible à tout le monde et que ce soit pas trop trop compliqué à lire.
Ça fait combien de pages un rapport du Grec Sud?
Ça dépend, le dernier c'est le plus long qu'on a sorti, il fait 80 pages, mais c'est entre 50-60 pages.
Et c'est disponible sur votre site internet?
Alors tout est disponible gratuitement sur le site du Grec Sud, tout à fait.
Alors ça peut faire beaucoup de pages, 50-60 pages. Au début, c'était même plutôt 40. Mais il y a beaucoup de photos et de graphiques et d'images dedans. Donc, c'est assez agréable à lire et ce n'est pas aussi ardu qu'on pourrait croire.
Donc, on invite les auditeurs et auditrices à aller sur le site et à aller au moins feuilleter pour voir si ça accroche et il y a des sujets intéressants. Il existe aussi le MEDEC. Alors, MEDEC, je le traduis en français. C'est les experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir du coup ces différentes institutions scientifiques, le GIEC, le Grec Sud, le MEDEC, à différentes échelles, régionales, méditerranéennes et internationales, mondiales?
Alors en fait, le MEDEC est né en 2015. C'était l'année de la COP21 et puis de la signature des accords de Paris. Et quand on a regardé un peu ce qui se passait au niveau du GIEC en Méditerranée, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas réellement une approche intégrée de la Méditerranée. La Méditerranée, elle se partage entre trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et en fait, la région méditerranéenne était un petit peu hachée en trois comme ça. Donc on s'est dit qu'il faut absolument trouver le moyen de travailler sur la Méditerranée de manière intégrée. Et donc, on a réuni des chercheurs qui travaillaient sur la Méditerranée. On leur a proposé de faire ce groupe pour la Méditerranée. Ils étaient tous emballés. Et donc, c'est comme ça que le MEDEC est né. Et le MEDEC a sorti son premier rapport, donc du type GIEC, en 2020, fin 2020. Et on travaille sur d'autres rapports déjà maintenant. Mais voilà. En gros, le MEDEC... au niveau de son fonctionnement, est beaucoup plus proche du GIEC, parce qu'on travaille avec des scientifiques, tout ça est relu, analysé, etc., par différentes personnes, différents chercheurs, et alors que le GREC, c'est beaucoup plus proche des citoyens et des décideurs. On ne peut pas dire vraiment que le GREC, c'est réellement un fonctionnement comme le GIEC, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment en aval du GIEC. Alors que le MEDEC, c'est assez proche. D'ailleurs, les chercheurs qui travaillent dans le MEDEC travaillent aussi souvent dans le GIEC.
Dans le GIEC. Ouais. Et ce premier rapport, alors, qu'est-ce qui montre des spécificités du changement climatique dans les régions méditerranéennes?
Alors évidemment, la Méditerranée, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a une histoire qui est très ancienne, donc une occupation des sols, une artificialisation des sols qui est ancienne. On a un climat particulier qui est beaucoup plus sec que l'Europe, par exemple, le reste de l'Europe. Et c'est un territoire de transition entre un climat tropical qui nous vient d'Afrique et un climat tempéré en Europe. et on a une mer au milieu qui est semi-fermée et qui permet en fait des échanges de beaucoup de choses, évidemment des échanges de gens, de commerce, etc., mais aussi de contaminants, de cultures, etc. Donc tout ça fait que la Méditerranée, on peut dire que c'est un monde en petit qui fonctionne sur lui-même et qui a vraiment des spécificités. Le fait que il fait sec, l'été est sec pendant 3 mois, il n'y a pour ainsi dire pas d'eau qui tombe. Tout ça, ça rend plus problématique l'agriculture. On a des vents comme Mistral par exemple, mais il y a des vents équivalents sur à peu près tout le nord de l'Europe qui font que on peut passer d'un temps relativement chaud à un temps relativement froid en très peu de temps. Et on a beaucoup de gens qui habitent en Méditerranée et la plupart sont situés sur le littoral. Et tout ça aussi, ça induit certains problèmes à la Méditerranée et des risques particuliers. Et il faut aussi signaler que c'est la destination la plus touristique au monde. C'est en Méditerranée qu'il y a le plus de touristes qui viennent chaque année. Donc il y a un vrai tourisme de masse qui induit aussi des problèmes. Par exemple, quand les touristes sont là, c'est le moment où on a besoin d'eau pour l'agriculture. Donc si cette eau commence à manquer, eh bien, il y a des conflits d'usage entre les touristes et les agriculteurs. Donc ça vaut vraiment la peine de travailler sur cette Méditerranée. Et puis un dernier point aussi qui est important, c'est les canicules qu'on connaît maintenant un peu partout. Mais en Méditerranée, elles sont particulièrement fortes puisqu'il fait déjà en été relativement chaud. Et si il fait chaud, eh bien, quand on a quelques jours où la température arrive à des pointes importantes, alors ça fait vraiment des canicules qui sont mortelles. Et particulièrement dans les villes, puisque dans les villes, à cause du béton et du macadam, etc., bien la température est encore plus élevée que dans les campagnes environnantes. Donc les canicules sont vraiment ressenties en région méditerranéenne de manière tout à fait particulière.
Est-ce que le trait de côte est amené à changer autour de la Méditerranée? Est-ce que les projections...
Oui, vous avez raison de me le signaler. C'est une autre spécificité de la Méditerranée. C'est que le niveau de la mer monte, elle est montée à peu près de 20 cm au niveau global, donc en Méditerranée également. Mais en Méditerranée, on a très peu de marées. Les marées sont très, très, on appelle ça des micro-marées. Et donc, depuis toujours, les populations ont pris l'habitude de construire très proche du littoral. Et maintenant, avec le niveau de la mer qui monte, eh bien, il y a énormément d'infrastructures, de villes, etc., qui sont vraiment en danger de la montée du niveau de la mer. L'exemple évidemment le plus classique, c'est Venise, qui a de gros problèmes de contenir justement cette montée du niveau de la mer. Mais il y a aussi par exemple le delta du Nil, la Camargue, où en plus des inondations, on observe une salinisation des eaux, ce qui pose de gros problèmes pour l'agriculture également.
Et est-ce que vous voyez des réflexions qui sont déjà amorcées pour le changement, un aménagement de la côte?
Alors ça se fait, effectivement, on a en France le Conservatoire du littoral qui rachète des terres tout le long du littoral. Et disons qu'ils ne préconisent pas de construire des digues parce qu'on sait que les digues, ça va agir temporairement, mais à un moment donné, ça passera au-dessus quand même. Et donc, il y a des méthodes qui sont, on appelle ça des solutions basées sur la nature, qui consistent à conserver des zones complètement humides, comme la Camargue en est une. Et on a aussi la presqu'île de Gien. Ces zones-là, eh bien, il faut les laisser libres d'occupation et il faut laisser la nature fonctionner normalement et ces zones font tampon par rapport au niveau de la mer. Donc c'est les solutions qu'on préconise, mais il faut s'attendre quand même de toute façon à ce que un jour ou l'autre, eh bien, on sera obligé de faire reculer les habitations parce que ce ne sera plus possible d'habiter trop près du niveau de la mer.
L'aménagement va être différent. Alors, et qu'en est-il de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne se résume pas finalement qu'à la Méditerranée, puisqu'il y a aussi l'arrière-pays. On parle jusqu'à Gap-Briançon aujourd'hui, Manosque, Sisteron. Donc, c'est les Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, le Var et le Vaucluse, qui concernent un peu donc toute cette région. Quel est le tableau des émissions de gaz à effet de serre, peut-être par secteur? Est-ce que c'est possible d'en dresser un à l'heure actuelle? Est-ce que c'est plutôt le Grec Sud qui en dresse un aujourd'hui?
Disons que dans le premier cahier qu'on a publié en 2014, on a déjà publié des chiffres qui ont montré que les émissions de la région PACA sont plutôt supérieurs à la moyenne nationale. Et les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est les transports, donc essentiellement les transports individuels, chacun avec sa voiture dans la région, et en particulier dans l'arrière-pays, puisque les transports en commun étant relativement faibles, eh bien les gens sont obligés d'utiliser leur véhicule. Et il y a aussi l'isolation des bâtiments, et particulièrement pour les Bouches-du-Rhône, on a l'industrie, on a quand même une forte industrie, il y a Fos, tout le pourtour de l'étang de Berre, et donc c'est très émetteur de gaz à effet de serre. Et l'agriculture, au niveau national, est un secteur qui émet pas mal de gaz à effet de serre également, mais en région PACA, c'est relativement faible.
Ça s'explique pourquoi ?
Parce qu'elle est beaucoup moins présente que dans le reste de la France, et aussi parce que c'est une agriculture de montagne, c'est une agriculture beaucoup plus raisonnée, plus écologique, on va dire, et qui émet moins de gaz à effet de serre. Simplement, on utilise moins d'engrais, on utilise des méthodes qui s'appellent l'agroécologie, l'agroforesterie, alors que dans le nord de la France, on a des grandes étendues agricoles de producteurs de céréales. Alors là, c'est des engrais de manière industrielle, quoi. Et donc ça, c'est énormément émetteur de gaz à effet de serre.
Quelle part aussi prend cette région, la région sud, dans les émissions de gaz à effet de serre nationales ? Est-ce que la production de gaz à effet de serre au niveau de la France est induite pour beaucoup par notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ?
C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la région PACA émet plus que par habitant, hein, évidemment, par habitant que des autres régions. Donc, effectivement, je ne peux pas vous dire quelle est la part, il me semble, mais je ne suis pas sûr à 100% du chiffre, c'est de l'ordre de 15% des émissions nationales viennent de la région PACA, ce qui est pas mal. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de notre région, et c'est vraiment, ça devrait être une priorité pour les années qui viennent, et pour dès maintenant d'ailleurs.
Et l'association Air Climat propose justement des projets et des préconisations, mais avant d'en parler plus longuement, je vous propose une petite pause musicale. C'est Slowly de Olivia Dean.
Down in Margate, had a sip of you, and it went straight to my head. I could have opened up, cried, and almost been myself, but I took the piss instead. I find it hard to be soft. Stop saying I'm perfect, 'cause clearly I'm not. Just need to catch my breath. Go slowly, slowly. I know you're not supposed to know me. Remember when you called us both a cat and forgot you had your bike? In the hallway home, I thought, how's he keeping up with me? He must be really into me. As I fight, urge to fly, I find it hard. Go slowly. showed me slowly. I left to teach you how to hold me. So go on, hold me. Go slowly, slowly. I know you're not supposed to know me. I only see it when you show me slowly. I'll have to teach you how to hold me. So go on, hold me. Maybe I'll be fine this time. I'll let you see me in the light. Yeah, maybe I'll be fine.
Vous êtes en direct du magazine du Midi qui est fait depuis le studio marseillais et nous sommes toujours en présence de Joël Guillot et Sébastien Berger-Lefranc de l'association Air Climat, association qui a pour vocation aussi d'éclairer les acteurs du territoire, les élus, collectivités, entreprises, associations sur l'évolution du climat et sur les enjeux qui lui sont associés. Alors, est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de vos préconisations faites aux acteurs du territoire? On parlait en micro-coupé de la politique, par exemple, de transport, parce qu'on évoquait qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le transport, c'est une des sources de gaz à effet de serre la plus forte dans la région. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme préconisation, par exemple, à ce niveau-là?
Alors, il faut distinguer les régions qui sont très peuplées, dans lesquelles c'est relativement facile de développer des transports en commun. Et là, malheureusement, la région PACA est encore très très sous-équipée et il faut vraiment développer les lignes de chemin de fer. Il faut évidemment, là où il n'y a pas de ligne de chemin de fer, il vaut mieux avoir des bus. Mais l'idéal, c'est vraiment le chemin de fer. Et à l'intérieur des villes, il faut absolument développer les pistes cyclables et pousser la population à utiliser le vélo, parce que c'est vraiment une méthode de déplacement qui est vraiment très douce et qui est vraiment très bonne pour le climat. Et là aussi, on a pas mal de retard. Par contre, dans les régions un peu plus reculées comme les Alpes, c'est plus difficile de développer des transports en commun, mais il faut innover et trouver des méthodes qui peuvent s'apparenter, par exemple, au covoiturage, enfin des unités plus petites de transport. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit relativement facile d'accès, suffisamment fréquent, de manière à ce que les gens puissent les utiliser quand ils en ont besoin. Donc là, il y a vraiment tout un système à mettre en place. Et d'ailleurs, on en parle dans le dernier cahier du Grec Sud, qui est sur les solutions concrètes. On parle de différentes solutions, bon, qui sont celles dont je viens de parler, hein, mais il y a vraiment tout ça. Il y a des études qui se font, mais ça tarde à être mis en place.
Et peut-être on peut aborder aussi le secteur de l'industrie. Est-ce qu'il y a des préconisations aussi dans le rapport du Grec Sud dans ce secteur-là?
On fait après des préconisations, pas uniquement au secteur de l'industrie, mais plutôt globalement à tout ce qui est acteurs économiques. Et comme disait Joël, on les retrouve justement dans ce dernier cahier des solutions concrètes qui portent, ben, là aussi, qui peuvent porter sur la mobilité, donc toujours cette question des transports, mais aussi de la sobriété dans la consommation d'énergie, mais aussi tout ce qu'on peut faire au niveau de la récupération.
Au niveau de l'industrie, il faut distinguer. Il y a la production industrielle qui fait des efforts. Et ça, c'est pas vrai que en région PACA, c'est au niveau national et au niveau européen. L'industrie a plutôt tendance à diminuer ses émissions, contrairement au transport. Et puis il y a aussi le fonctionnement de là, qui dit une usine dit peut-être des centaines, peut-être milliers de gens qui travaillent, et il faut aussi les aider à ne pas venir travailler avec leur voiture personnelle. Il y a disons tout le développement durable qu'on peut faire autour du site lui-même, quoi. Et ça, c'est peut-être encore plus difficile parce que c'est quand même aussi lié aux infrastructures régionales qui sont quand même relativement faibles.
Et au niveau international, donc il y a le GIEC, on l'a évoqué en début d'émission, mais aussi est moins connue une autre instance onusienne avec laquelle elle travaille de pair, c'est l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc deux entités, le GIEC et l'IPBES, qui travaillent ensemble comme dans le rapport en 2017. Cela permet de réfléchir donc aux conséquences conjuguées de la crise climatique et aux conséquences environnementales, la biodiversité. Au niveau régional, est-ce que vous avez l'équivalent de cette entité-là, ou est-ce que le GREC Sud et Air Climat s'intéressent tant au climat qu'à la biodiversité?
Bah, c'est vrai qu'en tout cas, chez Air Climat, le sujet central, c'est cette question du climat et du changement climatique, mais le deuxième sujet, c'est aussi la question de maintien de la biodiversité. Et nous, on travaille par exemple beaucoup avec une association qui s'appelle la Tour du Vala. Et
qu'est-ce que cette association alors?
C'est un laboratoire de recherche en fait qui a été fondé par Hoffmann La Roche, qui est firme pharmaceutique bien connue et qui s'intéressait beaucoup aux oiseaux, entre autres en Camargue, et il a décidé de faire cette fondation où il y a pas mal de chercheurs et qui est établie donc en Camargue, et qui, vraiment, ils sont spécialistes de la biodiversité de cette région-là. Alors le IPBES, on a intégré en fait les objectifs de la biodiversité dans le GREC, et on est en train de préparer un cahier sur la biodiversité, complètement focalisé dessus. Mais il y a aussi de la biodiversité dans les autres cahiers. Et je parlais tout à l'heure des zones humides qui servent de tampon par rapport à l'augmentation du niveau de la mer. Eh bien ça s'appelle un service écosystémique. Et dans IPBS, eh bien le S, ça veut dire Ecosystemic Service. Donc c'est vraiment... La biodiversité est aussi, bon, évidemment, il faut la conserver pour elle-même, mais elle rend aussi beaucoup de services, et en particulier dans la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Le GIEC, évidemment, est beaucoup plus ancien que l'IPBES, mais puisque le GIEC a été fondé au début des années 90, et l'IPBES, c'est une dizaine d'années. Le premier rapport, comme vous l'avez dit, c'était en 2017. Et ils ont déjà sorti, le GIEC et l'IPBES, un rapport commun qui est sorti peut-être, je ne sais plus, il y a 2 ans, un truc comme ça, qui essaye justement d'intégrer un petit peu toutes les problématiques du changement climatique et de la perte de biodiversité.
Donc l'objectif bas carbone va toujours de pair avec l'objectif de préservation de la biodiversité?
Alors, il faut faire attention. Effectivement, il peut y avoir des solutions qui apparemment sont bonnes, et puis finalement, on se rend compte qu'elles sont mauvaises pour la biodiversité. On pourrait citer, par exemple, le développement de panneaux solaires un peu partout. Si on couvre des surfaces entières de panneaux solaires, eh bien, on va transformer des surfaces qui sont naturelles par des surfaces complètement artificielles, et donc ça va être très mauvais pour la biodiversité. Donc il faut en fait vraiment travailler les deux ensemble, et c'est pas forcément évident, il faut vraiment faire attention.
Et alors, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est-ce qu'il y a des focus sur une biodiversité à défendre?
Il y en a plusieurs. Il peut y avoir à peu près dans tous les parcs naturels régionaux qu'il y a dans la région, donc il y en a 9, donc ça fait pas mal de zones où la biodiversité est quand même importante. Et là où elle peut être menacée, mais oui, moi je pense notamment à toute la biodiversité qu'il peut y avoir dans le parc naturel des Camargues, où il y a à la fois une zone humide et une zone avec beaucoup d'oiseaux.
Et Air Climat, vous êtes amené à travailler avec ces parcs nationaux, des parcs...
Ah ben oui, nous on a concrètement un projet qui est quasiment dédié aux parcs naturels régionaux, qui fait l'objet d'une convention en tout cas, entre la région Air Climat et le réseau des 9 parcs, où on les accompagne dans la révision de leur charte. On propose aussi un peu d'information et de sensibilisation autour des enjeux du changement climatique. Et puis, on essaye aussi de construire un peu un mix entre un laboratoire et un observatoire du changement climatique, parce que, en fait, justement, c'est des territoires qui concentrent vraiment ces enjeux, où il y a une question de protection de la biodiversité, de protection de l'espace, Et en même temps, c'est quand même un endroit qui regroupe des villes, des activités économiques. Et donc, ça permet d'observer un peu comment on regroupe tout ça et comment on fait pour que tout marche bien ensemble.
Pour que ça cohabite. Oui. Alors, avant de continuer sur les missions propres à l'association, les projets qui sont développés, je vous propose une petite pause poétique. C'est parti.
Instant poème, fréquence poème, mistral poétique.
Un poème de Marien Guillet, lu par l'auteur.
En écoutant le chant des lunes, j'ai touché en moi le vide plein qui surgissait à travers la brume et qui dansait sur du satin. En explorant le chant des lunes, qui d'une étoile en colorit le ciel, j'ai souri aux eaux des lagunes qui dansaient sur l'essentiel. En apprenant le chant des lunes, j'ai découvert la douce audace de la tendresse commune, cette douce attention qu'on embrasse. En répétant le chant des lunes, j'ai goûté l'ivresse soudaine d'un lointain présage qui m'ouvre les yeux au mystère immense des nuits de traverse. En traversant le champ des lunes, j'ai trouvé en moi le quartier de cœur qui criait « famine à la fortune ». Je lui ai désappris la peur en fredonnant le champ des lunes. J'ai laissé venir au creux de l'oreille la voix tapissée d'espace qui tremble encore d'ignorer jusqu'à ton nom. Fortune s'en est allée, laissant place aux êtres unis par le grand vent.
Et je vous propose une deuxième pépite poétique. Tout de suite, je laisse la parole à Marien Guillet. Un poème de Marien Guillet, lu par l'auteur.
Toute ma vie, j'ai marché. Depuis le ventre de ma mère, jusqu'à ce jour où je te parle, j'ai marché. Avec des chaussures nouées à des rêves plus grands que moi. J'ai marché sans me retourner. Avec un soleil sur chaque épaule et des mots imprononçables cousus sur le bord de mes lèvres. J'ai marché un pas après l'autre, sans compter les heures ni les siècles que je ne traverserai jamais. Le monde est vaste pour la lenteur de mes pas, et la vie est immense pour la marche qui me mène du ventre de ma mère jusqu'à cet instant où je te parle.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, on écoute le magazine du midi depuis le studio marseillais. Joël Guillot, vous voulez revenir sur la biodiversité et ses enjeux. Je rappelle que vous êtes président de l'association Air Climat et accompagné de Sébastien Berger-Lefranc. Alors, on parlait tout à l'heure du GIEC et de l'IPBES et aussi du fait de pouvoir avoir en tête à la fois les enjeux climatiques et à la fois les enjeux environnementaux.
Oui, justement, merci de revenir là-dessus. C'était pour donner deux exemples qui sont assez parlants sur l'interaction entre la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est les Posidonies en mer, qui sont vraiment un emblème de la mer Méditerranée. Et ces Posidonies ont un rôle très important pour lutter contre l'augmentation du niveau de la mer, mais également pour capturer du carbone. Et donc elles consomment pas mal de carbone qui sont après stockés dans leurs racines et puis dans le sol. Et ça permet vraiment de diminuer en partie les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment très important de les préserver. Et sachant que ce sont des endroits où les poissons viennent frayer, etc. Donc si cet écosystème des Posidonies, c'est vraiment des écosystèmes très riches en biodiversité. Donc en préservant la biodiversité, on préserve aussi le climat. Et un autre exemple, c'est les forêts. Un gros problème, on n'en a pas parlé, mais un gros problème du changement climatique en Méditerranée, c'est l'augmentation des feux de forêt. Et on sait qu'il y a des espèces qui sont plus sensibles au feu que d'autres. Et si on installe ce type d'espèces de manière un petit peu uniforme un peu partout, on va aller dans un sens où les feux de forêt vont augmenter. Et en plus, ce sont des forêts qui sont monospécifiques souvent et donc avec une biodiversité assez pauvre. Donc là, agir pour la biodiversité, c'est diversifier les espèces. Elles seront beaucoup plus résilientes au changement climatique et en particulier aux feux de forêt. Donc vraiment, ces deux exemples-là montrent bien que les deux sont liés. Les deux sont liés, voilà.
Et ça nous amène directement au projet Air Fraîche, qui est un projet qui est développé par l'association Air Climat. Est-ce que vous pouvez le détailler, ce projet-là ?
Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas un projet qui est développé par l'association Air Climat. Nous, on est partenaire en fait, sur ce projet-là, mais il est piloté par un laboratoire qui s'appelle Argens. Et en fait, c'est un projet qui est un peu particulier pour l'asso, bah, déjà parce qu'il est financé par l'Union européenne et qui ne se passe pas uniquement en région PACA, mais il se passe aussi en Italie. Et l'idée en fait principale, c'était de planter une forêt périurbaine, donc une à proximité d'Aix-en-Provence, pardon, du coup qui a été plantée à Aix-les-Milles, et une autre forêt qui a été plantée à Florence. Et l'idée de ce projet-là, c'est en fait de mesurer l'efficacité des arbres, des arbustes, à bah, d'une part capter les polluants, à capter aussi tout ce qui est CO2. Et à fournir des îlots de fraîcheur. Donc voilà, donc c'est un projet qui est en cours. Là, les forêts sont déjà plantées. Et après, tout ça, c'était pas simplement planter une forêt, mais c'était aussi regarder quels sont les arbres qui sont le plus adaptés pour lutter en fait contre les pollutions et pour s'adapter au changement climatique.
Donc vous allez suivre l'évolution de ces arbres. Vous allez sur le terrain, donc peut-être pas forcément vous, mais en tout cas, il y aura un suivi de ces arbres-là.
Ah oui, il y aura un suivi. De toute façon, le projet, donc, il va durer jusqu'en 2025. Et en fait, comme je vous le disais, les arbres, ils ont été sélectionnés, ben, d'une part, par le fait qu'ils ne soient pas très allergisants, pour leur capacité à résister à la chaleur et pour leur capacité à ne pas émettre de polluants aussi également.
Et vous avez le souci aussi de diversifier les espèces d'arbres, justement, pour éviter les feux de forêt.
Ben là, sur les arbres qu'on a plantés, donc on a étudié 300 espèces, et on en a sélectionné 6. Alors, je ne pourrais pas toutes vous les dire de tête, mais il y a, par exemple, le micoucoulier, le tilleul argenté, notamment. Et voilà.
Et ces espèces-là, donc, c'est pris en considération, notamment dans la région sud, de faire en sorte que ce ne soit pas une qui puisse rester longtemps, que ce ne soit pas juste une essence à un endroit. Et le but, c'est de préserver ensuite ces îlots-là.
Oui, c'est exactement ça. Après, en fait, ils ont été sélectionnés pour leur capacité à résister à la chaleur et à la sécheresse qui seront potentiellement plus longues avec le réchauffement climatique et surtout leur capacité à pas nuire à la qualité de vie à cause parce qu'elles pourraient produire des allergènes par exemple.
Et alors ce projet-là, il est un peu en corrélation avec un autre projet où vous êtes partenaire ou alors que vous développez, le Cool AM Metropolis, qui justement pointe du doigt les îlots de chaleur en milieu urbain.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet qui, lui, pour le coup, vise à caractériser les émissions de gaz à effet de serre et à modéliser les îlots de chaleur urbains. Et ensuite, derrière, à proposer en fait, des solutions pour réduire toujours ces émissions et réduire les îlots de chaleur.
Alors, ces îlots de chaleur, pourquoi ils existent ? Est-ce que vous pourriez les définir est-ce que dans chaque ville, il y a des îlots de chaleur ?
Alors il y a des îlots de chaleur dans chaque ville qui sont proportionnels, l'intensité de l'îlot de chaleur est proportionnelle à l'artificialisation. Si on est dans une ville très dense avec énormément de verre, de béton et de bitume, eh bien l'îlot de chaleur est très fort. Ça veut dire que toutes ces matières, comme le béton, le bitume en particulier, captent de la chaleur pendant la journée. Et puis la restitue pendant la nuit. Donc un îlot de chaleur, en fait, c'est à la fois des pics de température très élevés au moment où le soleil tape au maximum, donc l'après-midi, et puis les nuits, eh bien, restent relativement chaudes, et c'est peut-être ça qui est le plus mauvais pour la santé, c'est que si on n'a pas suffisamment de fraîcheur pendant la nuit, eh bien, c'est très difficile pour l'organisme humain, et ça finit par donner des maladies cardiovasculaires importantes. On a eu en 2003... en France, il y a eu 15 000 morts supplémentaires à cause de la canicule. Et ces morts étaient plus nombreux dans les villes que dans les campagnes environnantes, parce que dans les campagnes, avec la végétation, eh bien, il fait plus frais. Et donc l'objectif de ce type de solution préconisée par le projet AirFresh, c'est de végétaliser les villes, mais justement pas n'importe comment. Sébastien a parlé des allergènes, mais il y a aussi les espèces, parce que comme on sait que la température va continuer à augmenter, c'est important de ne pas mettre des espèces qui vont souffrir de la chaleur dans quelques années parce que la température deviendra trop élevée. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en considération.
Alors, comment est-ce que, pour ces deux projets, est-ce que c'est vous qui êtes allé voir la métropole ? Est-ce que c'est la métropole qui a fait appel à vous ? Comment vous intervenez à ces endroits-là ?
Eh ben, en fait, ça dépend vraiment de
chaque projet.
Ça dépend vraiment de chaque projet. Si vous voulez, dans le cadre du projet Grec Sud, on est amené à répondre aux sollicitations des différentes collectivités. Après, il n'empêche qu'à côté, on a des projets un petit peu différents et qui viennent se greffer à ce projet un peu central de l'association. Mais voilà, c'est souvent des demandes des collectivités ou des associations ou de collectifs locaux qui viennent vers nous parce qu'on a cette capacité en fait à pouvoir mobiliser des différents chercheurs sur différents sujets en lien avec le changement climatique et qui nous donnent un peu presque cette légitimité pour agir.
Et donc, si un auditeur ou une auditrice fait partie d'une association qui aurait envie d'avoir des préconisations, ils peuvent faire appel à vous.
Ah ben oui, tout à fait, ils peuvent faire appel à nous. Oui.
Et comment est-ce que vous les accompagnez, donc ces associations, les entreprises ? Est-ce que vous avez accompagné aussi des particuliers ?
Alors, des particuliers, non. On a de temps en temps des petites demandes sur la boîte mail de l'association, mais c'est vrai que l'objet de l'association, c'est pas d'accompagner des particuliers. Et après, dans la façon d'accompagner les collectivités, ben là encore, ça va être vraiment différent d'une structure à l'autre où en fait elles peuvent être demandeuses ben plutôt d'indicateurs sur le changement climatique ou alors plutôt de formation et de sensibilisation pour les agents de telle ou telle institution. Ou ça peut être la rédaction d'une synthèse du GIEC ou d'une synthèse de l'effet du changement climatique sur une région ou en tout cas sur un territoire bien défini.
Pour les particuliers, on fait beaucoup de conférences sur invitation d'associations. D'ailleurs, on va dans les différentes parties du territoire de la région PACA et on va faire des conférences. Et là, ce qu'on donne aux particuliers, c'est des informations et des discussions, parce que ça se termine toujours avec une discussion avec le public. Disons que ça c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe, quoi.
Et là, pour les projets à venir, justement, est-ce que vous avez des dates de conférences ou des idées de conférences ? Est-ce que vous continuez à appuyer les projets qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que vous en avez d'autres en tête ?
Alors, des projets, il y en a qui sortent un peu tous les ans. On a des sollicitations régulièrement sur les projets à venir. On a c'est toujours en construction, mais on aimerait par exemple proposer une synthèse du rapport du GIEC auprès de différentes zones d'acteurs économiques qui sont représentés en fait par des réseaux d'entreprises. Donc voilà, c'est en cours de discussion, ça fait partie des prochaines dates à venir, j'espère.
Justement, le travail avec les entreprises, c'est quelque chose qu'on veut développer maintenant. D'ailleurs, ça fait partie des missions de Sébastien de le faire. Et c'est vraiment important de discuter, d'aller sur place, de travailler avec les entreprises. C'était quelque chose dans lequel on était relativement faible jusque maintenant, mais on veut vraiment le développer.
Oui, c'est important en fait que tout le monde se sente un peu concerné par cette question-là et de montrer que en fait tout le monde peut agir un petit peu à son échelle.
Et pour l'instant, les entreprises n'ont pas encore fait appel à vous ou il y a déjà des entreprises qui...
Si, on a travaillé avec le réseau d'entreprises qui s'appelle Cap au Nord Entreprendre, qui est en fait un réseau d'acteurs économiques du territoire nord de Marseille et qui a fait appel à nous dans le cadre d'une visite d'une ferme urbaine. C'était la ferme Capri à Marseille. Où justement on a fait intervenir une experte du Grec Sud sur le sujet de l'agriculture et de l'alimentation. Et puis aussi, on a eu une sollicitation de notre réseau qui s'appelait EA Eco Entreprise et qui voulait qu'on fasse une introduction lors d'une réunion sur les énergies renouvelables.
Donc votre idée, c'est aussi dans vos conférences de vulgariser un peu tous ces sujets d'enjeux climatiques, enjeux de la biodiversité, pour le rendre plus digeste que le gros rapport du GIEC ou le rapport du Grec Sud. Les conférences aident à ça par la participation du public, les échanges.
Voilà, en fait, lutter contre le changement climatique, ça se fait à différents niveaux. Et évidemment, le premier niveau, c'est les pouvoirs publics qui doivent développer, par exemple, des transports en commun. Ça, c'est une chose. Donc là, on essaye de convaincre la région PACA d'aller dans cette direction-là. D'ailleurs, le fait qu'ils nous financent montre qu'ils sont en principe conscients du problème, mais il faut toujours quand même les pousser pour aller plus loin dans le développement de solutions contre le changement climatique. Et puis, il y a aussi le public et les entreprises. Alors, le public, il y a les gestes du quotidien. Évidemment, on ne peut pas dire que c'est uniquement le public qui est responsable du problème et qui a la solution en main. Mais il faut que le public soit conscient de tout ça et qu'il fasse sa part de solution. Et évidemment, les entreprises, c'est important également. Bon, on disait tout à l'heure qu'en région PACA et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, les entreprises, les industries sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a du travail à faire aussi à ce niveau-là.
Et alors, est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres associations sur le territoire? Je pense par exemple dans le milieu climat-énergie. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres milieux militants, peut-être les Shifters 13 ou l'ANV COP 21, etc.?
Alors, assez peu avec les milieux militants. Nous, on est plutôt du coup en relation avec tout ce qui est institut de recherche et avec tout ce qui participe à la médiation scientifique. Je pense notamment à une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards et du coup qui fait de la médiation scientifique à destination des jeunes, des scolaires.
Alors, je rappelle qu'il y a un reportage sur Les Petits Débrouillards sur notre site fréquencemistral.com. Vous pourrez aller voir l'onglet reportage Marseille, une présentation de l'association et de ce qu'ils font. Donc, Les Petits Débrouillards, est-ce que Atmosud aussi, et je pense à Atmosud, je pense à l'Institut Éco-Citoyen qui est basé à Fos-sur-Mer, est-ce que ça, c'est des organismes avec lesquels vous interagissez?
Atmosud, oui, puisque en fait, ils participent à nos cahiers, par exemple sur la ville. Ils ont travaillé, donc on travaille pas mal avec eux. Il y a aussi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais
il n'y a pas de mal. On continue. Ouais. Alors, si ça vous revient, n'hésitez pas. Donc le travail partenarial, c'est quelque chose d'important pour vous. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous développez des projets de recherche participative et ou collaborative avec l'action des citoyens et des citoyennes pour développer des mesures? Je pense aux îlots de chaleur. Je sais que c'est fait avec Planète Mer, je sais que c'est fait aussi le programme Airwalk financé par Diams et porté donc justement par l'Institut Éco-Citoyen en partenariat avec le Bureau des Guides. L'idée, c'est de proposer aux citoyens de s'accaparer des moyens de mesure et même de se rendre compte des répercussions sur notre quotidien des changements climatiques et peut-être même de participer à des études, voilà.
Il faut préciser que le Grec Sud ne peut pas être militant, en fait, parce que si on rentre dans le secteur militant, on va perdre peut-être la confiance d'une partie des gens avec qui on discute. Donc, et le GIEC fait pareil, il dit toujours qu'il propose des solutions, il propose des études, mais il n'est pas prescriptif. C'est des gouvernements qui doivent décider les mesures à prendre. Ce que le GIEC fait, ou le GREC au niveau local, c'est de dire, ah ben, cette solution-là, elle marche ou elle ne marche pas. Mais après, il y en a plusieurs qui peuvent marcher, c'est à vous à choisir celle que vous voulez.
De vous en saisir.
Voilà. Donc ça, c'est important, sinon on perd un petit peu notre crédibilité si on va trop dans le sens du militantisme.
Alors, bon, on continue quand même un petit peu sur le sujet de la politique. C'est une question d'ouverture. Dimanche, c'est le second tour des présidentielles. Il y a beaucoup d'associations qui ont analysé les compatibilités des programmes des candidats avec les engagements climatiques. Est-ce que l'association Air Climat a fait ces analyses-là?
Non, on n'a pas fait ça, non. Non, mais on les a regardées comme tout le monde, mais... Non, c'est pas notre... De toute façon, en plus, on n'a pas les moyens de... On a trois personnes qui travaillent, plus quelques stagiaires, qui travaillent dans l'association Air Climat, donc on n'a pas les moyens vraiment de faire ce genre de choses. C'est pas comme le Shift Project, qui, lui, c'est un réseau de bénévoles à travers toute la France. Ils ont quand même une capacité d'analyse qui est autrement plus importante que la nôtre. Par contre, ce qu'ils font, c'est vraiment très, très, très bon, parce que c'est, on apprend plein de choses sur, par exemple, le truc qui m'avait le plus frappé dans les sorties du Shift Project, c'était l'impact du numérique sur le changement climatique. On pense que travailler sur un ordinateur ou sur son téléphone, c'est absolument indolore pour le climat. Et en fait, c'est équivalent à, actuellement au transport aérien au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et dans quelques années, eh bien, ce serait équivalent au transport par voiture. Donc, c'est pas du tout indolore. Donc, le Shift Project fait vraiment un très gros travail là-dedans. Et puis, c'est pas à nous, on n'a pas les capacités, on va pas redupliquer ce genre de travail.
Alors justement, j'évoque le titre du livre de Shift Project, c'est « Plan de transformation de l'économie française », qui est possible, qui est accessible à l'achat. Alors l'autre question que je voulais vous poser en rapport avec ce second tour qui arrive dimanche, c'est est-ce que vous attendez des actions pendant ce quinquennat ? Est-ce qu'il y a des actions que vous attendez particulièrement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique?
Alors, ce qui est sorti dans le dernier rapport du GIEC, qui est sorti début avril, vous l'avez rappelé au début de l'émission, c'est qu'il faut absolument qu'on amorce de manière très forte une décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Et il est dit dans ce rapport que d'ici 3 ans, il faut qu'on ait entamé de manière assez forte cette décroissance des émissions. Donc, voilà, c'est dans le quinquennat qui va venir qu'il faut prendre des mesures. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Ce rapport-là montre qu'il y a des pays qui ont fait des plans climat, etc. Mais c'est encore très insuffisant. Donc là, il faut passer vraiment à la vitesse supérieure. Et quand on voit que le climat n'a quand même pas été un sujet très important dans la campagne électorale, même s'il y a eu quelques annonces qui se sont faites entre les deux tours, je pense qu'il faut vraiment que nos dirigeants prennent conscience de la gravité du problème. Et à mon avis, on n'y est pas encore.
Il faut s'accaparer de ce sujet. Alors peut-être, ce que je vous propose pour clôturer notre échange, c'est de donner une idée de film ou de lecture aux auditeurs, auditrices, des lectures qui pourraient justement sensibiliser à ces enjeux climatiques et environnementaux.
Il y a un livre que je suis en train de lire, que mon père m'a donné d'ailleurs, qui traite en fait de la chute de l'Empire romain, mais vu au prisme du changement climatique, et qui explique en fait que la chute de l'Empire romain pourrait s'expliquer par une baisse de la température sur une période donnée, et qui a fait que l'Empire ne pouvait plus alimenter suffisamment toute sa population. Et que du coup, met en lumière un peu toute cette question du changement climatique dans notre région.
C'est intéressant. Alors, quel est le titre ?
Alors, j'ai plus le titre exactement en tête, mais c'est... Mais non, j'ai plus.
On cherche Empire romain et réchauffement climatique.
C'est, ouais, c'est ça.
Ça va être une enquête pour trouver le titre de ce livre. Alors, et vous, Joël ?
Alors, au niveau des films, j'ai deux choses. Quelque chose, un film que j'ai vraiment bien aimé, qui est Demain, qui est un film déjà qui a quelques années, mais qui... C'était un film assez... positif, en fait. Il montrait que des petites solutions locales dans une grande ville comme Détroit, par exemple, on s'est mis à faire de l'agriculture urbaine sur les friches de l'industrie automobile. Et tout ça fonctionne bien. Il y a eu la suite de Demain, c'est Après-demain, et qui montre vraiment que tout n'est pas perdu. Ça, c'est à mon avis, ça vaut aussi la peine d'aller aussi dans cette direction-là pour se rendre compte. Parce que si on pense que tout est foutu, eh bien, je pense que les gens auront du mal à adopter une position suffisamment active pour lutter contre le changement climatique. Ils seront trop désespérés. Donc, des films comme Demain, c'est de Cyril Dion, le film. Et moi, je vais faire de la pub pour moi. On a sorti une bande dessinée qu'on appelle Voyage en... Ouais, elle n'est pas encore sortie, en fait. Elle va sortir début du mois de mai, vers le 4 mai.
C'est d'info toute fraîche.
Oui, oui. Et ça s'appelle Voyage en Anthropocène. Et c'est fait avec Macha, une dessinatrice et médiatrice scientifique également. On a fait ça pour montrer, en fait, on part un peu du GIEC et on arrive au Grec Sud. Montrer vraiment l'emboîtement d'échelle depuis le global jusqu'au local, avec des exemples de solutions qui marchent et puis aussi des problèmes qui sont importants. Par exemple, la guerre en Syrie qui est occasionnée par aussi des problèmes politiques, mais également des problèmes climatiques, puisqu'il y a eu pendant plusieurs années de fortes sécheresses dans cette région-là et qui a occasionné les drames qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'est une illustration en fait du risque qu'on prend à ne rien faire contre le changement climatique, tout en proposant également des solutions. Donc ça s'appelle Le Voyage en Anthropocène. C'est la maison d'édition, c'est Le Bord de l'eau, et ça va sortir vers le 4 ou 5 mai. Voilà.
Super, ça permettra d'affiner un petit peu toutes les thématiques abordées là pendant cette émission. Vous avez retrouvé le titre.
Alors j'ai retrouvé le titre, c'est Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome. Donc c'est un peu au cœur du sujet actuellement.
Alors merci beaucoup à vous deux pour vos conseils lecture et puis aussi pour toute cette discussion très intéressante sur les actions de l'association Air Climat, mais aussi sur le Grec Sud, sur le GIEC et sur ces sujets de changement climatique qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.